Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de notre programme. Dans cette édition, nous parlerons de l'audience générale du Saint-Père tenue mercredi à la Cour Saint-Damas du Vatican, avant de nous rendre au Bénin, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo et au Burkina Faso. Quant à l'actualité sociopolitique sur le continent africain, elle nous conduira entre autres au Mozambique, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette nouvelle édition et surtout bonne condition d'écoute de nos programmes émis depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Donatien Niembo.
Le pape a présidé mercredi depuis la cour Saint-Damas du palais apostolique son audience générale, continuant sa série de catéchèses sur la prière avec l'accent mis sur comment persévérer dans l'amour. La persévérance dans la prière, a indiqué François, est une invitation et même un commandement que nous vient de l'Écriture sainte. Dans son itinéraire spirituel, les pèlerins russes se demandent comment il est possible de prier sans interruption. De cette question commence sa recherche qui le conduira à découvrir ce qu'on appelle la prière du cœur. Elle consiste à répéter avec foi « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Cette prière s'adapte petit à petit au rythme de la respiration et s'étend à toute la journée. La prière, a encore indiqué l'évêque de Rome, est comme une portée musicale sur laquelle nous mettons la mélodie de notre vie. Elle n'est pas en contradiction avec l'activité quotidienne. Elle est le lieu où chaque action retrouve son sens, son pourquoi et sa paix. Le travail et la prière sont complémentaires. La prière, qui est le souffle de tout, demeure comme la toile de fond du travail, même dans le moment où elle n'est pas explicite. C'est pourquoi une prière étrangère à la vie n'est pas une prière saine. Une prière qui nous sépare du concret de la vie, a averti le Saint-Père, devient du spiritualisme ou du ritualisme. Les moments dédiés à la présence de Dieu ravivent la foi qui nous aide dans notre vie. La foi, à son tour, alimente la prière sans interruption. Dans cette circularité entre foi, vie et prière, le feu de l'amour chrétien reste allumé. Amour que Dieu attend de chacun de nous, a soutenu le pape, qui, en saluant les pèlerins francophones, a dit
« Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese ».
Je salue cordialement les personnes des langues françaises. Frères et sœurs, la prière est une nécessité vitale pour une vie chrétienne saine et fructueuse. Sachons trouver au cœur de nos activités quotidiennes des moments de recueillement et de méditation pour offrir au Seigneur nos soucis, nos émotions, nos espoirs ainsi que la vie du monde. Nous serons alors des disciples selon le cœur du Christ. Sur chacune de vos personnes, j'invoque la paix et la bénédiction de Dieu.
Su ciascuna delle vostre persone invoco la pace e la benedizione di Dio.
Le Saint-Père a nommé mercredi membre de la Congrégation pour les Églises orientales le cardinal Luis Antonio Tagle, qui est préfet pour la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Toujours mercredi, le pape a accepté la renonciation à la charge pastorale de l'archidiocèse de Durban en Afrique du Sud, présentée par le cardinal Wilfried Fox Napier, et pour le remplacer dans cet archidiocèse, le Saint-Père a nommé Mgr Mandla Siegfried Djuara, qui était jusqu'à cette nomination vicaire apostolique des Ingwavuma depuis 2016. Les évêques de la conférence épiscopale de Burkina Niger sont en assemblée plénière ordinaire. Reportage.
Comme chaque année, la tradition a encore été respectée en cette dernière assemblée plénière ordinaire des évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger, consacrée à la vie des commissions épiscopales qui ont en charge la coordination de la pastorale sectorielle de l'Église au Burkina et au Niger. Intervenue mardi 8 juin 2021 au siège de la conférence des évêques à Ouagadougou, la session d'ouverture de cette assemblée a été marquée par trois allocutions. D'abord, le mot de bienvenue de l'ordinaire du lieu Philippe Cardinal Ouédraogo, suivi de l'allocution du nonce apostolique au Burkina et au Niger, Mgr Michael Francis Crotty. Il a transmis à l'Assemblée un message de condoléances du Saint-Père François suite au massacre de Solhan. Dans son discours d'ouverture, le président de la conférence épiscopale, Mgr Laurent Dabiré, évêque de Dori, comme ses deux prédécesseurs, n'a pas manqué d'évoquer la mémoire des victimes du terrorisme.
Avant d'entrer en matière, la piété chrétienne nous commande de nous incliner sur la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées sous les balles assassines des terroristes dans nos deux pays, le Burkina Faso et le Niger, depuis notre assemblée plénière de février 2021 jusqu'à ces jours-ci où la barbarie s'est encore manifestée dans le massacre de Solahan dans la paroisse de Seba, diocèse de Glory. Plus de 150 morts, dont 4 fidèles de la CCB de Solahan.
Monseigneur Laurent a terminé son discours en annonçant d'autres points à l'ordre du jour de cette assemblée.
Les nouvelles des diocèses, la finalisation des nominations, le baptême de la rue Benoît XVI, la messe pour le Saint-Père.
Paul Ada, Ouagadougou pour Radio Vatican.
L'église Famille des Dieux qui est en République du Congo, Congo-Brazzaville, s'est souvenue de Mgr Théophile Mbemba, premier archevêque congolais de Brazzaville, par une conférence. Le récit avec notre correspondant local.
Pour avoir eu l'occasion et la possibilité et surtout la grâce de le rencontrer, d'échanger avec lui, de se confier à lui, alors qu'il était tout jeune prêtre et même grand séminariste, que l'évêque émérite de Kinkala, Mgr Portela, s'est permis de partager aux chrétiens de l'archidiocèse de Brazzaville son témoignage sur Mgr Théophile Mbemba, premier archevêque congolais de Brazzaville. Mgr Théophile a profondément marqué Mgr Portela par sa manière d'être.
C'est toujours très embarrassant de donner en quelques mots ce qu'on a pu partager avec les autres. Mais ce que je retiens d'abord, c'était un prêtre. Comme le dit le Père Morizieux, son vicaire général, un prêtre selon l'Évangile. C'est quelqu'un qui a été d'abord d'une simplicité désarmante, avec un esprit de pauvreté qui fait qu'il aimait bien les gens simples, les petites gens comme on dit, et il avait le sens vraiment de la pauvreté. Aucune prétention dans sa vie. Et cette simplicité l'a marqué. Malgré justement sa pauvreté, sa simplicité, il donnait toujours ce qu'on pourrait appeler une impression d'avoir une autorité. Et les initiatives qu'il a prises, que ce soit dans ses lettres pastorales, que ce soit dans des décisions, eh bien, ce sont des initiatives qui allaient dans le même sens. Former une église vraiment locale, responsable. Et à tout niveau, on sent que c'était vraiment un pasteur digne de ce nom.
Sévérin Moussavo, Brazzaville, pour Radio Vatican.
Dans l'autre Congo, Congo-Kinshasa, notre correspondant nous fait écho de la lutte contre la corruption et la tricherie dans les écoles de Kikwit.
Au diocèse de Kikwit, dans la province du Kwilu, le coordinateur des écoles conventionnées catholiques, M. l'abbé Florent Moukoko, effectue une tournée dans les écoles des territoires de Bulungu, Massimanimba et Gungu, afin de relayer l'interpellation récente de l'évêque, Mgr Timothée Bodika, demandant aux responsables des écoles catholiques de faire la différence. La tricherie et la corruption minent le système scolaire et universitaire. L'Église doit être prophétique, être le sel de la terre et la lumière du monde pour apporter des valeurs là où règne la loi du moindre effort. Le coordinateur diocésain des écoles conventionnées catholiques de Kikwit s'est allié le coordinateur pour la province du Kwilu, M. l'abbé Magloire Mangala. Un autre allié aura été le frère Théotime Ubole, missionnaire du Verbe divin, directeur provincial de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Partout, ils ont entretenu les responsables des écoles et des représentants des parents. Le frère Obole a remis aux responsables des exemplaires du code d'éthique de l'agent public de l'État. À Bulungu, il a animé des émissions à téléphone ouvert sur des radios communautaires et des appels sont venus de partout.
Aujourd'hui, vous et nous, nous pouvons alors nous poser cette question. Est-ce que nous répondons à la finalité de l'école? La deuxième valeur de référence, c'est l'éthique professionnelle. Le diplôme se mérite.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Bouclons l'actualité de l'Église par le Bénin où ont été commémorés les 45 ans d'existence de ministres extraordinaires de l'Eucharistie. Les récits dans cette correspondance.
De 6 ministres laïcs extraordinaires de la communion institués par l'archevêque de Cotonou, Mgr Christophe Adimon, de lumineuse mémoire, en la solennité du Sacré-Cœur de l'année 1976, le collectif des ministres extraordinaires de la Sainte Communion de l'archidiocèse de Cotonou au Bénin a rendu grâce le samedi 5 juin, 45 ans de vie après, avec plus de 800 membres. C'est l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Cotonou qui a abrité la messe d'action de grâce présidée au nom de l'ordinaire du lieu, Mgr Roger Rumbedi, par son vicaire général en charge de la pastorale, le Père Roger Sevo. Une célébration au cours de laquelle 34 nouveaux catéchistes laïcs ont été institués ministres extraordinaires de la communion. Belle opportunité pour le Père Sévère à l'homélie de retenir des textes du jour à l'attention des membres du collectif. Quelques leçons.
Ce qui a commencé ici il y a 45 ans, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'elle continue. Et elle continuera. Dieu est la source de tout bien. Donc c'est de ce Dieu-là que vous faites l'aumône aux malades. En tant que ministre extraordinaire de la communion. C'est pour ça que votre mission, vous devez la comprendre comme une mission hautement charitable. Comme une mission divine. Ne la remplissez pas comme si vous étiez rempli de vous-même.
Le président du collectif, Franck Sekloka, quant à lui, n'a point tari de remerciements.
45 ans, ce n'est pas petit. C'est pour nous une joie, une paix profonde que nous ressentons.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au moins 51 enfants, des filles pour la plupart, ont été enlevés en 2020 par le groupe djihadiste qui terrorise le nord-est du Mozambique depuis plus de 3 ans, selon un rapport publié mercredi par l'ONG Save the Children qui s'appuie sur des données relevées entre janvier 2020 et janvier 2021 par l'ONG américaine ACLED qui collecte des données sur les conflits. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé mardi que son pays était prêt à intervenir d'une manière ou d'une autre en Libye voisine pour stopper l'avancée des forces du maréchal Khalifa Haftar lors de leur offensive lancée sur la capitale Tripoli en 2019-2020. Par ailleurs, la campagne électorale pour les législatives du 12 juin en Algérie avait pris fin mardi. Un scrutin dont le principal enjeu sera la participation puisqu'il est rejeté par une partie de l'opposition et le mouvement contestataire du Irak. Quelques 24 millions d'électeurs seront appelés à élire samedi les 407 nouveaux députés de l'Assemblée populaire nationale pour un mandat de 5 ans. Le procès du journaliste marocain Omar Hadi en détention préventive depuis 10 mois a été renvoyé mardi au 15 juin après que sa défense ait déroulé les irrégularités qui ponctuent le volet espionnage de son affaire. Lors de cette audience de plus de 4 heures à la cour d'appel de Casablanca, les avocats de M. Hadi ont évoqué des écoutes illégales, des interrogatoires sans base solide, ainsi que la détention arbitraire de leurs clients. Le reporter de 34 ans, connu pour son ton critique, est poursuivi pour viol et pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État avec financement de l'étranger, 2 affaires différentes instruites et jugées conjointement. Les États ouest-africains ont dépêché leur émissaire mardi au Mali, où celui-ci devait évaluer si les assurances données par le nouveau président de transition, le colonel Assimi Goïta, suffisent à satisfaire leurs exigences quant à un retour des civils au pouvoir après 2 coups d'État. Le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise politique malienne, Goodluck Jonathan, est arrivé en début d'après-midi à Bamako, a-t-on appris de sources diplomatiques. Il arrive au lendemain de la prestation de serment en tant que président de la transition du colonel Goïta qui, dans la foulée de son investiture, avait nommé un nouveau premier ministre de transition, un civil comme le réclamait une partie de la communauté internationale.
Radio Vatican, Français-Afrique, Donatien Niembo.
La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, en visite officielle en Tunisie, a appelé mardi à protéger le trésor que constituent les vestiges de Carthage, cité qui a régné sur un empire méditerranéen jusqu'au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Le projet de doter Dakar d'un parc urbain pour atténuer les effets d'une urbanisation galopante dans une ville cruellement dépourvue d'espaces verts a franchi mardi une nouvelle étape avec la désignation pour son aménagement d'un bureau d'architecture français, ont indiqué les autorités sénégalaises. 10 civils ont été tués et un hôpital incendié, c'est le nouveau bilan des combats qui ont opposé lundi l'armée régulière à des miliciens en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les agents de santé de Côte d'Ivoire ont entamé mardi à Abidjan un mouvement de grève pour réclamer 13 mois d'impayés de primes liées au Covid-19. Près d'un millier de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes et de techniciens de santé en blouse blanche ont pénétré dans la cité administrative au cœur du quartier des affaires du plateau où se trouve le ministère de la Santé pour crier leur ras-le-bol. Le parti de l'un des principaux opposants à l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, le mouvement Les Transformateurs, fondé en 2018 par le jeune Succès Masra, a été autorisé par les nouvelles autorités dirigées par Mahatma Idriss Déby. Notre programme se poursuit avec Marie-Josée Mwando-Boabolo qui nous présente le magazine sur les organisations internationales et la solidarité.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Notre magazine sur les organisations internationales et la solidarité concerne aujourd'hui le Conseil norvégien pour les réfugiés qui a pour principal objectif la fourniture d'une aide humanitaire pendant la phase d'urgence d'un conflit ou d'une catastrophe naturelle. Il poursuit une approche holistique fondée sur les droits qui comprend des secours d'urgence et un relèvement rapide tout en promouvant la résilience et des solutions durables pour les déplacements. Son secrétaire général, Jan Egeland, a affirmé récemment que la République démocratique du Congo domine la liste annuelle des crises les plus négligées de la planète. Liste dressée par le Conseil norvégien pour les réfugiés qui déplore un manque d'attention médiatique, une combinaison mortelle de spirale de la violence, de niveau record de la faim et de négligence totale a déclenché une méga crise qui mérite une méga réponse, a souligné le secrétaire général de l'ONG. Jan Egeland. Mais au lieu de cela, des millions de familles au bord de l'abîme semblent être oubliées par le monde extérieur et sont laissées à l'écart de toute bouée de sauvetage, a-t-il souligné dans un communiqué. Chaque année, dans un rapport, le Conseil norvégien pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme sur les crises les plus négligées au monde. Le classement se fonde sur trois critères, à savoir la couverture des besoins humanitaires, le niveau de couverture médiatique et l'attention portée sur la scène diplomatique internationale. Les conflits croissants dans l'est de la République démocratique du Congo poussent chaque jour quelques 6 000 personnes à fuir leur foyer et quelques 20 millions de Congolais ont aujourd'hui besoin d'aide et de protection, selon l'ONG. Malgré cela, souligne-t-elle, les aides financières se font attendre, les initiatives politiques internationales font défaut et les médias prêtent au pays peu d'attention, hormis celle de courte durée accordée à l'éruption du volcan Nyiragongo qui a entraîné l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants de la ville de Goma. Les Congolais sont frappés chaque jour par une crise aux dimensions volcaniques en raison de la violence et des conflits, a ajouté M. Egeland. Malheureusement, quand il n'y a pas d'éruption volcanique, les milliers de personnes qui fuient leur maison chaque jour passent inaperçues. Selon le rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés, 8 des 10 crises les plus négligées concernent le continent africain, à savoir la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Burundi, le Nigeria, le Burkina Faso, l'Éthiopie, la République centrafricaine et le Mali. Le Venezuela et le Honduras complètent la liste. La pandémie de COVID-19 a empiré la situation de millions de personnes qui luttaient déjà pour survivre dans des crises négligées, a précisé M. Egeland. Le peu de revenus dont ils disposaient a souvent disparu, les besoins montent en flèche et le financement continue de se tarir. L'an dernier, pour la première fois au cours de ce siècle, les appels à l'aide humanitaire ont reçu moins de 50% des financements requis, note le Conseil norvégien pour les réfugiés. À la mi-mai, les besoins pour la République démocratique du Congo n'étaient couverts qu'à hauteur de 12%. Rappelons que le Conseil norvégien pour les réfugiés est une organisation humanitaire non gouvernementale qui protège les droits des personnes touchées par le déplacement. Cela comprend les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont contraints de fuir leur foyer en raison de conflits, de violations des droits de l'homme et de violences aiguës, ainsi que du changement climatique et de catastrophes naturelles. Le Conseil norvégien pour les réfugiés est politiquement indépendant et n'a aucune affiliation religieuse. Il emploie environ 16 500 membres du personnel et travailleurs de prime dans 32 pays à travers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Europe et le Moyen-Orient. Son siège se trouve à Oslo et compte environ 280 employés. En outre, l'organisation est présente à Bruxelles, Genève, Washington DC, Berlin, Londres et Addis Abeba. L'organisation a été créée en 1946 sous le nom de Europa Helpen, aide à l'Europe pour aider les réfugiés en Europe après la Seconde Guerre mondiale. En 1953, l'organisation a changé son nom en Conseil norvégien pour les réfugiés et l'est organisée comme une fondation privée indépendante.
Parlons à présent éducation avec Françoise Niamien.
Commençons notre rubrique consacrée à l'éducation par la Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Madame Maria Toukoné, s'est entretenue le 7 juin dernier avec le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. En venant rencontrer le cardinal Coutois, il s'est agi pour la ministre de venir l'informer officiellement de sa nouvelle mission, solliciter des prières, bénédictions et conseils. Leurs échanges ont porté sur le partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et l'Église catholique, ainsi que sur les états généraux de l'école ivoirienne. Madame Koné a sollicité le soutien de l'Église catholique qui détient un pan important de l'enseignement confessionnel avec une grande expertise qui pourra servir dans le cadre de ses états généraux. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a donc demandé le soutien de l'archevêque d'Abidjan pour les états généraux de l'école qu'elle envisage organiser en initiant des rencontres avec les entités qui peuvent contribuer par leurs idées et expériences et compétences à relever les défis de sa mission, a-t-elle fait savoir au cardinal. Le cardinal Jean-Pierre Coutois a pour sa part promis à la ministre le soutien de l'Église catholique. « Nous allons soutenir les états généraux de l'école ivoirienne parce qu'il est important de savoir d'où nous venons, ce que nous faisons et où nous allons », a dit l'archevêque d'Abidjan. Restons en Côte d'Ivoire où ont débuté mardi 8 juin les examens à grand tirage avec le certificat d'études primaires élémentaires, le CEPE et l'entrée en sixième. Selon le ministère ivoirien de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, ils étaient environ 562 519 candidats au certificat d'études primaires élémentaires CEPE et à l'entrée en sixième au titre de la session 2021 à affronter les épreuves écrites sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats du CEPE seront proclamés le 28 juin prochain. Après le certificat d'études primaires élémentaires, suivront les épreuves écrites du BEPC qui se dérouleront du lundi 14 au vendredi 18 juin. En ce qui concerne le baccalauréat, les compositions se tiendront du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet prochain. Cette année, au total, 1 384 899 élèves affrontent l'ensemble des examens CEPE, BEPC et BAC. Examen de fin d'année scolaire également en République du Congo, Congo-Brazzaville. Le ministre congolais de l'enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Magwesa Ebomé, s'est rendu mardi dans les différents centres d'examen de sortie des écoles techniques et professionnelles. L'objectif étant de constater sur le terrain le bon déroulement des examens d'État afin de motiver et assurer les candidats qu'ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Sur le terrain, les chefs de centre ont évoqué quelques difficultés pour le déroulement de cet examen. Parmi celles-ci figure le manque de matériel d'équipement au secrétariat. Au Sénégal, l'école internationale africaine située au cœur du pôle urbain de Diamniadio, l'école fruit d'une coopération entre la cité scolaire internationale et le groupe Télium, démarrera ses activités à la rentrée prochaine à partir du 2 septembre 2021. L'école va dispenser le programme sénégalais, le programme français et le programme international et qui sont tous homologués par les autorités académiques sénégalaises pour une offre plurielle et globale accessible selon sa directrice Madame Assiatou Mbaye Tala. Avec une capacité d'accueil de 1500 élèves, l'établissement va démarrer la rentrée prochaine avec 18 classes avec des effectifs de 25 élèves maximum par classe. Les promoteurs ambitionnent d'en faire la plus grande école internationale de la sous-région et même d'Afrique. L'établissement va accueillir des élèves sénégalais, africains et de la diaspora. Selon la directrice, l'objectif est de permettre aux enfants de toute la sous-région de pouvoir intégrer une école de très haute qualité, aussi bien au niveau des infrastructures que des enseignements, sans avoir besoin de sortir du pays pour trouver les standards internationaux. Le coût global est estimé à 6 milliards de francs CFA.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Donatien Nimbou. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi.